Moi, j'ai réfléchi sur un thème, sur un sujet un peu particulier, où on peut trouver ça un peu basique, se dire, bon, mais c'est une question, ça va, c'est... Mais quand même, dans plusieurs parties, dans les évangiles, on voit des gens qui se posent la question sur que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, c'est à la fois, à un moment donné, il y a un docteur de la loi, puis il y a un autre, c'est un homme riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la connaissance, qui a une grande connaissance de la loi, de la manière dont on doit faire les choses pour Dieu, théoriquement en tout cas, et un autre qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup de richesses. Et ces deux personnes-là sont venues poser quand même la question à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Et moi, je me suis dit, c'est vrai que dans l'Église, on ne parle pas souvent de qu'est-ce que ça veut dire que l'Évangile ? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? C'est un peu comme si c'était un acquis. Bon, ben, on est venu à la foi, on sait instinctivement ce que c'est que l'Évangile. Et pourtant, moi, quand je vois Jésus qui envoyait les disciples, il les envoyait deux par deux, et les disciples voyaient des belles choses se faire, ils voyaient des démons qui étaient chassés, tout ça, mais Jésus leur a dit, vous allez passer de maison en maison, et puis, s'il y a quelqu'un qui vous reçoit, et qui vous accepte, qui vous accueille, tout ça, bon, vous ne prenez pas 36 000 choses avec vous, prenez juste le nécessaire, ce qui va bien, et puis, en gros, Dieu va pourvoir à tout ça. Va pouvoir au reste. Et si quelqu'un vous accueille, bien que cette paix, que votre paix demeure sur cette maison. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et refuse de vous accueillir, bien que la paix reparte avec vous. Et cette paix que Jésus a placée dans le cœur des disciples, je me suis dit, mais ils avaient reçu cette paix. Ils avaient reçu une paix. Et l'évangile, c'est l'évangile de paix, c'est celui qui nous parle de la paix de Dieu. De la paix qu'on reçoit dans notre cœur. Et je me suis dit, c'est peut-être un bon moment parce qu'on est en début d'année. Et c'est bien, on revient des vacances, tout le monde est tout content, et puis là, d'un coup, il y a le stress, parce que demain, ça y est, c'est le recommencement pour beaucoup. Enfin, je sais pas, pour mon fils, il est très très content de retourner à l'école, mais il dit « Ouais, ouais, super, on retourne à l'école, c'est bien, on verra dans quelques années, si ce sera toujours ça, c'est bien. » Mais peut-être, voilà, des fois, on est pris par beaucoup de choses, par le stress, par tout un tas de choses, mais... On oublie que celui qui nous donne la paix, c'est Christ.
Amen.
Celui qui nous donne la paix, c'est Dieu. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la paix ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans cette attitude où tout va bien pour moi ? Tout va bien pour moi, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se produit. Je sais que Christ pourvoit à mes besoins. Donc ça, je me pose la question, en fait, vraiment, qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? Qu'est-ce que l'Évangile ? Et quand je me suis dit ça, j'ai eu en tête cette question, je me suis dit, non, on ne va pas parler de ça, parce que c'est trop basique, quoi. Je veux dire, c'est... Et pourtant, vraiment, ça a insisté, je me suis dit, non, c'est bien, alors j'ai pris un bouquin que j'avais chez moi, puis je l'ouvre, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, en plus ? Un bouquin, un livre de Timothy Keller. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais vraiment, là, on va commencer, on va essayer d'étudier un peu ça. Et donc je me dis, bon voilà, on va essayer de parler de ça, de qu'est-ce que l'Évangile, parce qu'on est tous concernés par ça. Et si on a un problème avec ça, eh ben on va pas bien loin. C'est vrai ? On a besoin de savoir précisément ce que c'est. Alors je vais dire déjà que l'Évangile, eh ben c'est un message. D'accord ? C'est un message qui parle de la façon dont nous avons été sauvés d'un danger, d'une menace. Qu'il y avait sur nos vies. L'évangile, ça veut dire quoi ? Si je vous pose la question, en grec, il y en a qui connaissent. Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! Quand j'imagine Olivier, nous, on a reçu une bonne nouvelle par rapport à Olivier et Rachel. Ils ont un enfant nous est né dans l'assemblée. Un fils nous a été donné. Et sur ses épaules repose... Non, c'est pas autant, mais quand même, voilà, un enfant est né dans l'assemblée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, on la reçoit, oui, c'est bien, voilà. Après, il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, oh, ben, moi, je ne connais pas très bien, hein. Bon, il a un fils, c'est bien. Hein. Olivier, quand il a reçu la nouvelle, bon, il était déjà à côté, de toute manière. c'était du live, mais admettons qu'il soit à un moment donné dans une salle d'attente parce qu'on lui dise, oh là là, il faut que... Quand on lui annonce, voilà, c'est un fils. Ah oui, je le savais déjà, l'échographie, on l'a vu. Non, il est tout content. Il est tout joyeux. Il y a quelque chose qui bondit dans son cœur. Et une bonne nouvelle, c'est un message qui bondit dans notre cœur. Et d'autant plus la bonne nouvelle, le message de l'évangile, qui est précisément un fils. Voici, un fils nous est né, un fils nous est donné, et sur ses épaules reposera la domination. La bonne nouvelle commence déjà par un enfant qui est né. Alléluia, Olivier.
Amen.
Ouais. On est content. Donc une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pas juste un conseil. C'est pas juste le fait qu'on reçoit un conseil, c'est quelque chose de sage, c'est quelque chose que... Ok, c'est une bonne nouvelle. C'est pas juste une manière de bien vivre. Une manière de vivre, d'être croyant, d'être chrétien. Une bonne nouvelle. C'est un événement qui a un impact sur notre vie. Un événement. Donc on ne parle pas d'abord d'une manière de vivre, mais avant tout d'un message, d'une nouvelle, une bonne nouvelle. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Des fois on croit que par rapport à la foi, et on a très envie de faire, de faire, de faire. Mais la première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que Christ s'est donné. C'est que la première des choses, l'évangile, c'est pas par rapport à ce que nous faisons, c'est par rapport à quelque chose qui a été fait pour nous. C'est le fait que quelque chose, un événement, s'est produit, mais il s'est pas produit comme ça, de manière à ce que nous y soyons en train, il s'est produit pour nous. Donc nous le savons, Christ a donné sa vie pour nos péchés. Christ a donné sa vie pour nous. Un événement qui s'est produit pour nous. Donc ça n'a rien à voir avec ce que, en tant que chrétien, je peux faire ou ne pas faire. Et l'importance pour Dieu, ce n'est pas d'abord de faire, c'est d'abord d'être. Lui-même s'est présenté comme « je suis » et non pas comme « je fais » à Moïse. Il n'a pas été lui dire « voilà, tu diras aux Israélites, voilà, celui qui fait tout, celui qui a tout créé, s'est présenté à toi. Tu leur diras, je suis celui qui est, celui qui existe, celui qui est l'identité, la source de toute identité. » Et les mots utilisés donc dans la Bible sont utilisés pour annoncer un événement donc, qui a sauvé et délivré les gens d'un danger. Donc une bonne nouvelle doit forcément, d'une manière ou d'une autre, être annoncé. Un message se doit d'être annoncé. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle va de pair avec le fait que cette bonne nouvelle, ce message, est transmis, est donné, est amené des uns aux autres. Quand on a une bonne nouvelle, on sort sur place, mais on va le dire à droite, à gauche. Et quand Jésus, à un moment donné, il a sauvé quelqu'un, il a guéri quelqu'un, la personne, elle était sur place, il dit « Attends, tu vas faire attention, hein, l'aveugle, tu vas faire attention, tu vas le dire à personne. » Mais la première chose qu'il a été faire, c'est quoi? Il a été le dire à tout le monde, bien évidemment. Jésus lui dit de pas le dire, et la première chose qu'il fait, il va le dire à tout le monde. Pour lui, c'était une bonne nouvelle, il ne restait pas en place, c'était quelque chose, ça a changé sa vie. Un aveugle qui revoit, ça change sa vie. Il passe de mendiant à quelqu'un qui peut travailler, qui peut faire des choses, qui peut agir, parce que les aveugles ne pouvaient rien faire. Un boiteux ne pouvait rien faire. Il est comme ça. Personne ne voulait de ces gens-là. Parce que le travail dans les champs, le travail, tous les travaux pouvaient être assez difficiles. Ce n'était pas comme aujourd'hui devant un ordinateur. Hein, ouais, il y en avait des travaux un peu... ouais, compter l'argent, vous savez. Il n'y avait que compter l'argent, mais ce n'était pas boiteux cela. Et les gens qui étaient comme ça, c'était un salut pour eux que Christ vienne les guérir. Parce que Christ annonçait le salut. Ce n'est pas le fait que les gens soient guéris, que les démons soient chassés. Et la preuve, c'est que quand les disciples viennent et disent « Ouais, mais voilà, écoute, c'est extraordinaire. Il y a des démons qui sont chassés, il y a des choses qui se passent. Les gens sont guéris, c'est formidable. » Et Jésus leur dit quoi? Il leur dit « Attendez, vous ne réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous plutôt de la destinée de votre vie. » De ce que la destinée de votre vie a pris une tournure différente. Au lieu d'aller vers le chaos, elle est allée vers la lumière, vers la gloire, vers la réconciliation avec Dieu. Et Christ parlait de ça, du fait que l'homme, l'objectif de l'homme, le but pour l'homme, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et jusqu'alors, jusqu'à ce que Christ vienne, l'homme faisait des efforts pour être réconcilié avec Dieu. L'homme faisait des efforts pour marcher droitement, pour marcher justement, pour marcher de sorte qu'il ne s'écarte pas à droite ou à gauche de la loi. Parce que la loi est tranchante. La loi est tranchante. Et la lettre tue, nous dit la Bible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que la loi vienne dans notre cœur. C'est que la présence de Christ, c'est que Christ, dans sa présence, vienne dans notre cœur pour que de cette loi vive et prenne vie en nous de manière plus naturelle, plus vraie, plus profonde que ce que uniquement la loi peut dire et dire tu fais ci ou tu ne fais pas ça. Tu vas à droite ou tu vas à gauche. Une bonne nouvelle qui annonce que nous avons été secourus ou sauvés. Mais de quoi ? De la colère de Dieu, la Bible dit. De la colère de Dieu. Romains 3, versets 23-24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
amen,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Alléluia.
Tous ont péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est que grâce à Jésus, ce n'est que par sa grâce que nous pouvons être justifiés et que nous pouvons obtenir la rédemption par Jésus-Christ. C'est le fait que par défaut, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Par défaut, notre relation avec Dieu, avec le Père, est rompue. Par défaut. Notre vie est éloignée du Père. Notre vie est éloignée de Dieu et a besoin de se rapprocher. Et la plupart des gens cherchent du réconfort dans bien des choses, dans des amis, dans des relations, dans des conjoints. On cherche du réconfort, on cherche à être approuvé, on cherche à se réconcilier avec les uns, avec les autres. Mais justement, le problème vient de la racine du problème vient de notre relation. On cherche au travers de notre relation un peu horizontale avec les gens à trouver une solution à nos difficultés, à nos problèmes, à tout ce qu'il peut y avoir, alors que la solution du problème, elle se trouve dans cette relation verticale avec Dieu. Et combien de personnes cherchent à tout prix à s'en sortir dans la vie, et bien sûr venir à Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de soucis, qu'il n'y aura plus de difficultés, mais cette paix que Dieu veut mettre dans nos cœurs, ça on ne la reçoit que par Christ.
Amen.
Ça, on ne la reçoit que par Christ, que par Dieu. Et bien des gens cherchent absolument à trouver du réconfort, à trouver de la satisfaction dans des choses à droite, à gauche, dans des choses diverses. Dans l'argent, dans le pouvoir, dans la connaissance, dans la reconnaissance, dans bien des domaines. Mais on court après quelque chose. Dans tous ces domaines-là, on court après quelque chose. Et les gens tournent autour du pot, souvent ils tournent autour du pot, jusqu'au jour où ils réalisent, mais ce dont j'ai besoin, c'est de Dieu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le pas? Et c'est assez terrible parce que la société dans laquelle on vit fait croire que croire en Dieu est une chose qui est complètement folle, complètement déraisonnée. Moi, tu vas être interné dans un hôpital psychiatrique ou quoi? Tu vas te mettre à croire en Dieu? Tu vas te mettre à penser par rapport à Dieu? Tu vas te mettre à parler de ces choses de Jésus là? Mais tu es devenu fou! T'es devenu irraisonné, t'es complètement à l'ouest. Ça, c'est ce que les gens dans le monde peuvent nous faire comprendre, peuvent nous faire entendre. Et la parole de Dieu dit que l'évangile est une folie pour les hommes.
Oui.
Mais c'est une sagesse pour Dieu.
Alléluia.
La prédication de la croix est une folie pour les hommes.
Alléluia.
Mais c'est une sagesse devant Dieu.
Alléluia.
Parce que derrière, il y a une profondeur et une connaissance qu'on peut avoir de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, il y a quoi? Il y a des souffrances, la maladie, la pauvreté, le racisme, les catastrophes, tout un tas de choses, les guerres, le vieillissement et la mort, même, puisqu'il n'en était pas question. Et tout ça vient de la malédiction. La malédiction de Dieu liée au fait que Dieu a pris ses distances. Et le premier qui a pris la distance, c'était l'homme. Hein, on se souvient d'Adam, dans le jardin, c'était Dieu qui le cherchait. Et Dieu n'a de cesse de chercher nos vies, de nous chercher. Dieu n'a de cesse de chercher dans la vie des hommes et des femmes, de chercher une porte qui s'ouvre pour que la foi, pour que l'évangile, pour que sa présence puisse arriver. Mais l'homme était caché et il s'est caché de Dieu. Donc des fois on dit, mais où est Dieu? Où se trouve Dieu? Où est-ce qu'il est? Et la Bible dit, il est près de ton cœur, près de ton oreille, près de ta bouche. Il se tient près de toi. Mais simplement, des fois, notre regard est troublé. Notre regard ne veut pas se tourner vers cette source de vie qui se tient à côté de nous. La présence de Dieu se tient à côté de nous. Elle se tient à côté des non-croyants. Elle se tient à côté des personnes parce que Dieu veut toucher leur cœur. Mais il y a des fois tellement une telle carapace, il y a des fois un tel voile sur les yeux des uns et des autres qu'ils ne le voient pas. Et lorsqu'on parle de voile, on peut parler de Saül. Saül qui était, lui, Saül ou Saul, à chaque fois j'ai dit non, Saul. Saul de Tarse, voilà. Saul de Tarse, qui lui était en train de combattre les chrétiens. Il combattait les chrétiens. Mais Dieu, où était-il pendant ces moments? Il faisait enfermer des chrétiens, il en faisait tuer. Où était-il dans ces moments-là? Où se trouvait le Père? Jusqu'au moment où Paul, Saul, a vu cette lumière et est devenu aveugle. Et est devenu aveugle un peu de toutes ces choses, à cause de toutes ces choses qui l'empêchaient de voir Dieu. Toutes ces choses qui l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Mais Dieu se tenait là. Et au moment opportun, il s'est présenté. Il a manifesté sa gloire, il a manifesté sa grâce, et celui qui était ennemi de Dieu, celui qui était le pire de tous, est devenu ami de Dieu. Est devenu celui qui était le plus proche. Celui qui était proche, en tout cas. Et il a aussi appris des souffrances au travers de tout ce qu'il a vécu. Et donc le besoin de la vie d'un croyant, de la vie d'un non-croyant, peu importe, dans tous les cas, dans tous les sens, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et ne nous trompons pas, on peut être croyant, mais on a besoin aussi de se réconcilier avec Dieu. On a besoin de marcher sans cesse dans une marche de réconciliation avec Dieu. Par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous connaissons, par rapport au fait qu'on a délaissé certaines choses, par rapport au fait peut-être même qu'on s'est attaché à ce que nous faisons peut-être justement, et pas à ce que nous sommes, et pas à ce que notre cœur lui éprouve. Des fois, il y a tellement de choses, on peut paraître tellement bien, tellement formidable, et puis dans notre cœur, quand on regarde, ou si, je ne sais pas, on est réveillé dans la nuit, peut-être dans la prière, et Dieu nous dit, mais regarde ton cœur, c'est ça que je veux travailler. C'est ça d'abord. Dieu travaille de l'intérieur. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui annonce ce que Jésus a fait pour nous, pour que notre relation avec Dieu soit rétablie, pour que notre relation soit pleinement rétablie. Et des fois, il y a des choses qui mettent du voile dans nos cœurs, qui mettent du voile dans nos vies. Et on se dit, mais comment ça se fait? La parole de Dieu parle de telle et telle manière, mais c'est tellement dur. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous aurez à vivre. Ne vous inquiétez pas de toutes les choses que vous aurez à vivre. Les gens vont vous haïr, vont vous détester parce que vous parlez de la parole de Dieu. Christ l'a annoncé. Et vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre et tout un tas de choses. Mais par rapport à ça, quelle sera votre réaction? Quelle sera notre réaction? Ne vous inquiétez pas de ces choses, parce que ces choses-là doivent arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inquiète pas? Parce que nous restons dans la confiance de Dieu. Parce que nous sommes convaincus de ce que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Nous sommes convaincus que s'il y a quelque chose de mal que nous voyons, nous pouvons prier pour cette chose-là, nous pouvons prier par rapport à telle chose, mais nous avons à être convaincus que la finalité, Dieu tient toute chose entre ses mains. Rien de ce qui peut nous arriver n'arrive en vain. Pas un seul cheveu, disait Christ, ne tombe de votre tête sans que le Père ne n'autorise cela. Pas un seul cheveu, pas une seule chose qui ne se produise dans notre vie ne se produit sans que Dieu n'ait mis son accord là-dessus. Et ça peut être difficile. ça peut être terrible. Et on ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Mais la confiance, la passion pour Dieu, la recherche de Dieu, c'est ce qui motive notre marche avec lui. C'est ce qui motive le fait que nous gardons l'espoir, coûte que coûte, vers l'avenir. Nous gardons l'espoir en croyant que Dieu va au-delà. Que même ma vie ne va pas, même si elle s'arrête, et tout à l'heure on a entendu parler de cette sœur qui était dans la victoire, même par rapport à la mort. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je suis dans l'espérance de ce que, au-delà de la mort, je serai avec Christ. Au-delà de la mort, je serai dans la gloire de Dieu. Cette semaine, on a eu des triops, des petits trucs là. C'est des trucs qui poussent, des sortes de poissons avec trois yeux, en gros. Et c'est Johan, il avait ça. On était tout contents. On était tout contents parce qu'on en a vu plein. Il y en avait plein. On met ça dans une sorte de petit bocal là. Il y en avait plein. Et il y en avait même un qui commençait à grossir. On s'est dit, ah, celui-là, ça va y aller. Lui, il va aller tout droit vers le. Il va aller tout droit. Je crois que nos yeux se sont arrêtés un petit peu trop à l'apparence. Parce que le lendemain, il y a la plupart qui étaient partis, qui n'étaient plus là. Et les tout petits qui étaient encore là. Je me suis dit, waouh, ah, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant, mais je me suis dit, ces bestioles-là, ça dure quoi? Ça a duré 2 jours. C'est triste pour eux. C'est pas long. Nous, nos vies, elles durent combien? Elles durent 80 ans. Je crois que, je sais pas s'il y en a des animaux, à part la tortue peut-être, qui vit beaucoup plus longtemps que nous. Les éléphants aussi. Mais c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est peu. Et on a tous une finalité dans notre vie. On a tous un jour ou l'autre le fait que notre vie prendra fin. Mais notre regard se tourne vers au-delà de cette vie-là. Et quand Christ est allé à la croix, il a eu un premier réflexe, il a dit, si cette coupe peut s'échapper de moi, peut s'écarter de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a mis sa confiance dans le Père. Il a mis sa confiance dans une puissance qui est bien plus grande que celle que l'homme peut manifester, parce que l'homme ne peut rien face à la mort. Personne d'entre nous ne pouvons quelque chose par rapport à la mort. Personne n'a une solution par rapport à ça. Seul Christ, seul Dieu a une solution, parce qu'il nous donne un regard qui va bien au-delà, parce qu'il a été bien au-delà. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 14 nous dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Et il n'est pas dit, nous passerons de la mort à la vie. Il n'est pas dit, nous passons de la mort à la vie. Il est dit, nous sommes passés. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire que notre vie d'avant, notre vie sans Dieu, c'était une vie de mort. C'était une vie caractérisée par la mort. C'était une vie qui a l'odeur de la mort, qui a l'empreinte de la mort. Et bien sûr, nos corps, eux, sont mortels. Mais cette relation avec Dieu caractérise quelque chose de particulier dans nos vies. C'est pas que, ça y est, je me suis refait un lifting, j'ai changé physiquement ou autre chose. Non, ma vie a changé de statut. Elle a changé de position. Avant, j'étais loin de Dieu. Aujourd'hui, je suis proche de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Dieu. Aujourd'hui, je suis en Dieu. Je suis en Christ. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc là, on ne parle pas de triops ou de triton ou autre chose. Hein. Une nouvelle créature, une nouvelle création aussi, on peut dire. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est une réalité dans la vie du croyant. Ça, c'est une réalité dans la vie de celui qui met sa confiance en Dieu. Et ça n'est pas conditionné par rapport à ce que nous faisons pour Dieu. Ça n'est pas conditionné. Tout le reste, bien sûr, nous aimons faire des choses pour Dieu. Gloire à Dieu, c'est bien. Et je pense qu'il y aura des services dans lesquels, à l'accueil, tout ça. Je pense qu'il y aura plein de choses dans lesquelles on pourra s'investir dans cette année. C'est formidable. Mais la première des choses, la source de toute chose, ne tient pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes. Et si nous sommes en Dieu, si nous sommes en Christ, c'est une position dans laquelle nous tenons. Et lorsque les disciples, ils allaient et ils parlaient au nom de Jésus. Ils ne venaient pas eux-mêmes. Il ne s'agit pas de parler de soi-même et de dire, voilà, je viens en mon nom, je suis tout puissant, je viens au nom de quelqu'un là. Ce n'est pas moi qui viens, c'est quelqu'un qui m'envoie là. Donc je viens au nom de cette personne, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus ? C'est le roi tout puissant. Le roi majestueux, celui devant lequel aucun démon ne tient. Celui devant lequel la maladie s'en va. Donc il n'est jamais question de nous et de nous seuls, il est question de l'œuvre que Dieu fait en nous. Et dans cette position, soit Christ, soit nous sommes en Christ, soit nous ne sommes pas en Christ. Soit nous nous tenons dans une position en Christ, soit nous ne sommes pas dans cette position-là. Que nous sommes croyants ou que nous sommes incroyants. Ça fait réfléchir. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Et parfois, les gens hésitent lorsqu'on leur présente l'évangile. Ils hésitent et disent, ouais, mais... Alors, il y a peut-être ceux qui diront, ouais, mais je ne suis pas assez bon. Je sens que je ne suis pas assez bien pour Dieu, là. Je sens que je ne suis pas assez bien. Ça, c'est l'évangile par le mérite. C'est pas l'évangile de la foi. C'est pas l'évangile dont il nous est question dans la parole de Dieu. C'est pas, il n'y a rien de ce que nous faisons qui ne satisfera à la grâce de Dieu, qui satisfera à la gloire de Dieu. Mais c'est le don gratuit de Christ. C'est le don gratuit de Dieu que nous héritions de la vie éternelle, que nous soyons en position, en position en lui. Et il y a des gens qui peuvent penser ça, dire non, mais je suis pas encore bon. On peut avoir tout un tas d'arguments pour dire non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour venir à Dieu. Non, je pense que je vais attendre quelques années. Je vais attendre quelques années parce que pour l'instant, là, je m'amuse bien, c'est bien, je vis des choses sympas. C'est pas encore le bon moment pour que je vienne à Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il n'est pas important. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que simplement, Dieu n'a pas son importance dans ta vie. Et moi, étant étudiant, j'ai rencontré plein de jeunes quand j'étais... Bon, depuis aussi, mais particulièrement étant étudiant, il y avait plein de types de personnes. Il y avait autant les personnes qui étaient enthousiastes à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du message de l'évangile, parce que ça répondait à quelque chose dans leur cœur, parce qu'ils avaient été travaillés par ça. Et puis il y avait aussi ceux qui écoutaient bien gentiment, qui disaient oui, oui, à tout, et puis qui s'en fichaient en fait. Alors ça, c'était le pire, parce qu'on ne savait pas quoi penser. Et puis il y avait ceux qui disaient non, mais moi, c'est pas maintenant, ça, c'est pour quand je serai vieux. Alors que c'est lorsqu'on est jeune, c'est lorsqu'on est jeune que l'évangile prend toute sa force. C'est lorsqu'on a toute sa force, et moi, je sais pas, j'avais 20 ans à ce moment-là, hein. 19 ans, c'est lorsqu'on est jeune que l'évangile prend toute sa force, il prend toute son ampleur, qu'il trouve toute sa profondeur dans nos vies et que ça change tout le cours de nos vies. Parce qu'au-delà, à un moment donné, ces choses-là, on les retrouve derrière et on est accaparé par la vie. On est accaparé par beaucoup d'autres soucis. Peut-être on a trouvé, je ne sais pas, une conjointe, une copine où il y a un enfant au milieu, tout ça. Et on se retrouve finalement à devoir... C'est des questions qui deviennent beaucoup plus difficiles. Lorsque l'évangile est annoncé, on peut déjà voir comment est-ce que ça répond au cœur d'une personne ou d'une autre. Peut-être les gens ne sont pas à cette étape-là, hein, aussi. Il y a des gens qui n'en sont pas à cette étape-là. Mais une bonne nouvelle, c'est ce qui est reçu avec enthousiasme et avec joie. Et c'est aussi à nous, de notre côté, à savoir que nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Des messagers pour annoncer. Et si cette lampe que nous avons, nous la mettons sous le boisseau, n'est-ce pas ? Il y a 2 semaines, j'ai parlé un peu de ça. Si la lampe qu'on a, on la met sous le boisseau, on la cache, eh ben, comment est-ce que les gens entendront parler ? Comment est-ce qu'elle brillera ? Comment est-ce que ceux qui auront fait des erreurs se repentiront et diront, oh, c'est vrai qu'en fait, finalement, je ne suis pas très bien. Si tout le monde leur dit autour, ouais, c'est bien ce que tu fais, et si nous sommes parmi eux à dire, ouais, c'est bien ce que tu fais, alors qu'on sait que ce n'est pas bien. Alors, on sait que notre conviction nous dit non, ce n'est pas juste. Et il y a 2 semaines, je témoignais d'une fille qui m'avait beaucoup touché à un campus, qui avait parlé comment est-ce que il y avait des gens qui faisaient des mauvaises choses dans sa classe, et tout le monde l'a regardé en disant, mais elle a dit, mais moi je sais qui c'est qui a fait ça, c'est lui. Ils m'ont dit, mais c'est une balance, quoi. C'est une balance. Mais moi la première, j'irai pas conseiller à une personne de faire ça. Mais c'était incroyable comment Dieu m'a repris dans mon cœur. Elle me dit, mais quand même, les gens qui entendent ça, ils vont lui en vouloir. Et nous qui proclamons l'évangile, nous qui parlons des œuvres de Dieu, Les gens peuvent nous en vouloir parce qu'on dit des choses qui dérangent, parce qu'on parle de choses que certains ne veulent pas entendre, parce que ça remet des choses en question dans la vie des uns et des autres, parce qu'on est bien établi dans une vie dans laquelle personne ne nous fait la morale, personne ne nous interpelle, personne ne nous dit quoi que ce soit. Et l'évangile, il ne s'agit pas de faire la morale, hein. Mais il s'agit simplement d'annoncer la vérité. Il s'agit d'annoncer ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit. Et des gens pourront nous en vouloir, et cette fille, eh ben, les gens dans sa classe lui en voulaient. Et on m'a demandé de prier pour elle, et vraiment Dieu a touché profondément. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, mais tout le reste du temps, moi, je pensais, mais quand même, c'est pas bien de faire les choses comme ça. Depuis que je suis étudiant, je n'aurais jamais fait un truc comme ça. Et Dieu a touché mon cœur à ce moment-là, il dit, mais quand même, ces gens-là, si on dit la vérité, peut-être ils seront repris. Ils en voudront à telle autre personne, peut-être ils vont lui en vouloir, mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui dit la vérité. D'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui est attaché à la vérité. Je me suis vraiment senti repris personnellement parce que de la même manière, l'évangile est une vérité que nous devons annoncer,
amen,
que nous devons proclamer, que nous avons besoin cette bonne nouvelle. Des fois, on se pose 36 000 questions à savoir, mais quand même, comment l'annoncer, selon quel principe, comment est-ce que... Non ! Tu sais, je crois en Jésus. Je crois en Dieu. Et je crois qu'il est venu pour te sauver. Je crois que dans tes problèmes, dans tes difficultés, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Christ vienne et soit ton sauveur dans ces difficultés, dans ces solutions. Dieu s'intéresse à qui nous sommes avant de s'intéresser à ce que nous faisons. Et c'est assez intéressant de voir dans la Bible comment... Moi, il y a toujours un passage que j'aime bien. Dans l'Apocalypse, en 2:17, Il est écrit, et Jésus parle et dit, « Je lui donnerai à celui qui a vaincu, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Personne ne connaît ce nom si celui qui le reçoit. Et vous savez, probablement comme moi, qu'aujourd'hui on donne des prénoms comme ça. Moi, je m'appelle Jean-Philippe parce que ma mère, elle aimait Jean, mon père, il aimait Philippe, je ne sais plus trop comment. Enfin bon, donc ils ont tranché en deux, ils ont dit « Ok, ça va bien comme ça ». Et on ne fait même pas trop attention au sens que ça donne. Mais dans beaucoup de cultures, et y compris la culture hébraïque, les noms ont un sens. Et ils ont un sens qui donne. Par exemple, donc, quand on voit Jacob, c'est l'usurpateur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté contre lui et il lui a donné un nom nouveau après. Il lui a donné le nom d'Israël. Et quand on voit ça, on se dit, bah, c'est un nouveau nom. Mais Dieu a profondément changé son identité à partir de ce moment-là. Jusqu'à présent, Jacob était un usurpateur, était connu, et lorsqu'il se présentait, il disait, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle usurpateur. Ah ben d'accord, ok. C'est bon. Ça, c'était son prénom. Si on traduit, mot à mot, il s'appelait, il disait à des gens, je suis l'usurpateur. Et il portait ça. Quand il le disait, il portait ça en lui. Je suis un usurpateur. Et Dieu s'attache à notre identité. L'évangile s'attache à travailler notre identité. À travailler ce qu'il y a au fond de nous, ce que nous sommes, pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. C'est là où Dieu veut travailler par l'évangile, par la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle s'intéresse à ce qu'il y a au-dedans de nous, pas ce qu'il y a à l'extérieur, pas ce que nous pouvons manifester. C'est pas le fait que je dis « ouais, je suis content ». Ben non, c'est pas ça. C'est le fait qu'au-dedans de nous, nous vivons cette joie. Dieu veut rétablir notre identité. Au travers de l'évangile, par le message de l'évangile, par le message de la parole de l'évangile, lorsque nous disons à quelqu'un que Jésus veut le sauver, et que cette personne accepte Jésus, elle est en marche pour retrouver une identité véritable. Pas celle qui s'abstient de Dieu, celle qui trouve son essence en Dieu. Celle qui trouve son existence en Dieu. Jésus a parlé dans Jean 14, 20, il a dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme histoire. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que je suis, excusez-moi, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est la preuve que Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous montrons. Il s'intéresse à nos profondeurs. Il s'intéresse profondément à ce que nous sommes. À ce que nous sommes. Et c'est là qu'il veut s'attacher. Et c'est là qu'il veut venir et qu'il veut habiter avec nous. Et qu'il veut coexister dans notre cœur, dans notre vie, au plus profond de nous, pour nous encourager, pour nous aider, lorsque nous tombons, pour que nous nous relevions, pour que nous avancions, pour que nous allions plus loin. Et pour que nous le laissions éventuellement même reprendre par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et qui va prendre des profondeurs de Dieu pour les donner à nos profondeurs. Dieu travaille de profondeur à profondeur. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui va prendre des profondeurs de Dieu pour les amener dans nos profondeurs. Aux profondeurs de nous-mêmes. Et nous, on ne sait pas trop... Des fois, on se dit, mais qui je suis? Il y a des gens qui je suis, autre chose. On ne va pas rentrer dans le sujet. Hein, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais le fait est, c'est que l'homme, lorsqu'il s'est séparé de Dieu, l'homme, lorsqu'il a pris sa distance avec Dieu, s'est séparé de cette image qu'il avait de Dieu en lui. Et lorsque la Bible parle de la création, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme à son image. C'est pas juste une image. C'est pas juste une image. Juste je vois. L'homme a fait Dieu a fait l'homme à son image. C'est pas que l'apparence. C'est les profondeurs de ce qu'il est. Il a fait l'homme à son image et il veut retrouver cette existence, cette proximité avec nous. C'est pas le fait qu'il y a Dieu et qu'il y a. C'est Dieu veut habiter en nous. Et quand Christ parle, il parle du temple. Les gens sont attachés au temple. Ils sont attachés au temple. Ils se disent là, mais waouh, regarde comme le temple, il est beau, comme il est grand, comme il est costaud, comme il est fort. Waouh, il n'y a personne qui peut détruire ce temple-là. Personne. Alors là, tu vois ces pierres-là? Et si vous allez à Jérusalem, vous voyez des grosses pierres, il y a vraiment c'est pavé. Ah, personne ne pourra détruire ça. Et Jésus leur dit, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. Parce que nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être ce temple-là, cet endroit où Dieu fait sa demeure. Et ce matin, on est là en tant qu'Église. On est rassemblés en tant qu'Église. Mais ce qui donne à l'Église d'être l'Église, ce n'est pas ces murs. Ce ne sont pas ces murs, ce n'est pas cette salle. Merci Seigneur pour cette salle. Merci pour ces lieux, pour ces locaux dans lesquels nous nous trouvons. Mais si on se retrouve à deux, trois comme ça, ça va changer complètement la manière dont on fait les choses, parce que ce qui donne la qualité au culte, ce qui donne la qualité à l'Église, c'est ce que chacun d'entre nous nous sommes. Et l'Église n'existe pas sans que chacun d'entre nous, nous sachions nous remettre en question, nous sachions nous placer devant Dieu, nous sachions exister devant Dieu et exister en Dieu. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, il est question à certains moments de dire, mais s'il y en a un qui commet des péchés, qui fait des choses qui ne sont pas, et qui prend la Sainte Cène, qui est tout ça. Mais vous étonnez pas qu'il y en ait qui soient malades, vous étonnez pas qu'il y en ait des autres. Parce que l'Église, la profondeur de l'Église n'existe que par la profondeur de Dieu en nous. N'est vrai que par cette profondeur que nous vivons, que nous recherchons dans nos propres vies. La profondeur de Dieu. Dieu est profond, il est grand, il est puissant. Et il ne s'attache pas à ce qu'il y a en surface. Et on retrouve souvent la tentation de devoir faire quelque chose pour être sauvé. Mais de même, l'Évangile, c'est un point central entre deux opposés. Et quand je parle de deux opposés, je parle deux ennemis du message de vie de la parole de Dieu. Deux ennemis. Et bien sûr, c'est courant de rencontrer les gens qui relativisent la foi, d'accord ? Qui la relativisent, qui vont dire, bon, ben, Dieu aime et il accepte chacun tel qu'il est. Ça, on peut rencontrer tout ça. Ça, c'est le relativisme. Ça, bien sûr, c'est un ennemi de l'Évangile. Mais on pourrait aussi rencontrer son opposé. C'est ce qui consiste à dire, vous devez croire et vivre correctement pour être sauvé. Vous devez vivre justement pour être sauvé. Ça, ça pourrait paraître sage, mais c'est un autre ennemi de l'évangile. C'est un autre ennemi de l'évangile. De manière très naturelle, en tant qu'homme, femme, on aime bien à un moment donné se reposer sur des concepts, sur des routines, sur des choses qui feront qu'on n'a plus besoin de beaucoup réfléchir. On ne va pas se casser la tête à un moment donné. On va pas, voilà, on n'a plus besoin de beaucoup réfléchir. Mais Dieu est un Dieu vivant. Et le fait même que nous vivions, c'est parce qu'il y a des cellules qui bougent en nous. C'est parce qu'il y a des cellules qui manifestent. Le jour où ces cellules ne bougent plus, eh bien, je suis désolé, mais nous non plus. Le jour où, les plus petites parcelles de nous-mêmes s'arrêtent de vivre, ne serait-ce que la grotte parcelle, le cœur ou autre chose, eh bien, nous, on s'arrête avec. Et la marche que Dieu nous a donnée, en tant que croyant, c'est de marcher en confiance avec lui. Le peuple d'Israël marchait derrière la nuée. Mais il marchait. Il ne s'est pas arrêté. Il marchait derrière la nuée. Il cherchait à savoir où Dieu allait. Il cherchait à connaître la prochaine destination. Et les destinations par lesquelles sont passés le peuple d'Israël, on se dit, mais c'est un petit peu compliqué, parce que si on regarde leur trajet, et ça fait c'est un peu... On se dit, mais Moïse s'est perdu en chemin, là. Moïse s'est perdu en chemin. Le temps que Dieu voulait. Pour que les temps qu'ils étaient fixés soient manifestés au bon moment. Donc on peut rencontrer un petit peu ceux qui relativisent et aussi le côté moraliste. Et c'est ça, je pense qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est ce côté-là qui est certainement plus un danger pour nous. Et on a tendance à voir que l'autre côté, où les gens ne sont pas croyants, où les gens sont, tu te rends compte, ils sont loin de Dieu, tout ça. Mais nous avons, nous aussi, un danger. C'est de mettre dans une petite boîte l'évangile et de dire, ok, il est là, il est bien casé, de mettre la parole, le message que Dieu veut donner dans un coin, de le mettre là et de croire qu'il n'est pas vivant, qu'il ne vit pas, qu'il ne nécessite pas que nous allions consulter encore Dieu pour savoir ce que Dieu a à dire. Des fois même, si je prends un exemple, je veux dire quelqu'un qui est dans la dépression ou qui est dans la dépression ou qui est dans la tristesse. Alors je ne parle pas de l'aspect physiologique, d'accord, mais on pourrait des fois entendre, ah ben, personne qui aurait relativisé, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois t'aimer toi-même, tu dois prendre soin de toi, tu dois t'accepter toi-même. Ça, c'est le côté relativiste. Et le côté relativement légaliste, c'est tu enfreins là, une règle là. Tu enfreins une règle, repens-toi. Et l'évangile ne se trouve ni d'un côté, ni de l'autre. La Bible demande de s'interroger s'il y a quelque chose d'abord de plus important dans notre vie. Qu'est-ce qui a pris de l'importance dans notre vie? Des fois, lorsqu'on est un peu, je ne sais pas si ça vous arrive d'être un peu déprimé, se dire « Ah, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez » ou quoi, et je ne sais plus trop ou quoi. On peut se poser la question d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris plus d'importance que Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé au-devant de Dieu? Si quelque chose a gagné mes pensées au point d'occulter la toute-puissance de Dieu, au point de cacher, de m'empêcher de voir que Dieu est bien plus puissant que la situation, et bien plus grand que la situation. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un changement dans notre vie. Changement de position, changement de conception. Et lorsque quelqu'un est venu poser à Christ, aux disciples, vous connaissez ce passage dans Actes 16, il y a le geôlier, lorsque Paul est sorti de prison, la prison a tremblé, le geôlier a failli se suicider parce que c'était lui qui était... Et Paul lui a dit, non, attends, ne commets pas l'imparable, nous sommes là, on n'est pas partis. Tout se fait dans les règles, tout se fait bien, t'inquiète pas. Et cette personne-là a posé une question bien précise, elle a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Et le message de l'évangile, c'est celui qui répond précisément à cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et si nous rencontrons des hommes, des femmes autour de nous qui, même sans le poser de cette manière-là, disent « Mais je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie, je ne sais pas comment ça s'est passé. » L'autre jour, on faisait des témoignages et on a entendu Karine qui nous a parlé de sa patronne. Alors après, ce n'est pas toujours facile depuis peut-être, mais Karine qui nous parlait de sa patronne, comme quoi elle est venue témoigner parce qu'elle était dans la joie, parce que sa patronne était dans la difficulté. Et Karine lui a dit « Mais voilà, dans tout ça, est-ce que je peux prier pour toi ?» Elle a prié pour elle et même la patronne a dit ensuite « Mais est-ce que tu peux aussi prier pour la société parce que c'est difficile ?» Et donc, elle a prié aussi pour la société. Elle a prié pour l'entreprise. La réflexion m'aurait dit « Attends, c'est la patronne, celle-là, elle va... ça jamais passé, ça !» Elle est raisonnée, elle est réfléchie. Les gens ont besoin d'un sauveur. À un moment donné ou à un autre, on est dans cette phase-là, on est tous dans cette phase-là où on a besoin d'être sauvés de quelque chose, d'une situation. Et dans ce moment-là, le message qui nous sauve, c'est le message de l'Évangile. C'est celui qui va à la source, c'est celui qui va puiser au plus profond de nous. Et des fois, même les gens ne savent pas pourquoi ça leur fait du bien, ne savent pas pourquoi. J'ai vu l'autre jour une fille qui demandait à quelqu'un, c'était un réfugié, qui lui demandait « Mais tiens mal quelque part, tout ça ?» Elle dit « Ah, j'ai beaucoup mal au dos et tout ça. » Elle dit « Ok, est-ce que je peux prier avec toi ?» Moi, j'étais « Oh, oh, ça c'est... ouais. Je peux prier avec toi, j'ai envie de prier avec toi. » Et elle a prié pour lui. La personne n'est pas croyante. Voilà. Elle a prié pour lui, elle dit « Mais ça fait du bien. Je sens que elle dit « Ça va, tu sens qu'il y a... ouais, il y a du changement. Encore un petit peu, mais il y a du changement. » Elle dit « Ok, moi j'ai prié pour 100%. Pour 100% de guérison dans ta vie. » Je dis waouh, et je lui posais la question. Je dis waouh, mais c'est quelque chose, c'est bien parce que ça, souvent on le voit de manière théorique, mais en pratique c'est un élan qu'on fait pas beaucoup parce que peut-être on a peur de ce qui va se passer, je sais pas. Mais je dis c'est quelque chose que tu aimes. Elle me dit j'aime beaucoup prier pour les gens. J'aime beaucoup si je vois qu'il y a quelqu'un qui a un besoin, j'ai envie de. Je fais waouh, ça c'est. Ça, c'est beau. Et des gens qui ont des besoins autour de nous, il y en a plein. Des gens qui ont des besoins, il y en a plein. Et dans ce début d'année, on sera amené à en voir, et peut-être à la suite des vacances, des gens dépressifs, parce que les vacances sont bien passées et que là, il faut retourner au travail. Je ne sais pas comment on vit, mais... Mais en tout cas, ça suppose donc de s'interroger sur d'abord comment être en règle avec Dieu. Ça, c'est l'aspect individuel. Mais aussi comprendre... quel espoir il y a dans ce monde. Avoir une compréhension plus grande de la création, de la chute, de la rédemption et de la restauration. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est l'évangile par lequel Dieu veut que chacun, chaque homme, chaque femme soit sauvé. Et c'est l'évangile dans lequel il nous donne cette mission. Il nous donne la mission de mettre en relation les gens avec lui. Nous, notre mission, c'est de mettre les gens en relation avec Dieu. Mettre les gens en relation avec Dieu par le moyen de l'évangile qui est une puissance. Ça ne se limite pas aux mots que nous disons, ça ne se limite pas à ce que nous. Ça trouve son essence d'abord dans ce que nous sommes, dans notre désir de Dieu, dans notre désir pour les âmes, pour les uns et pour les autres. Et ce n'est pas forcément tous les mots que nous pourrions dire qui ont de la valeur. Comme je l'ai raconté, déjà un ami à moi, il m'a beaucoup surpris quand j'étais. Quand j'aimais bien faire, je faisais pas mal d'évangélisation, parce que moi je parlais beaucoup, et lui il parlait pas beaucoup, et il savait pas beaucoup parler, mais les gens se sentaient bien avec lui. Je sais pas. Et il a amené plein de gens à Christ. Et j'étais toujours étonné, parce que je me suis rendu compte, c'est pas forcément les paroles. C'est la manière dont on vit Christ. C'est la manière dont on vit l'évangile. C'est la manière dont notre regard est forgé dans l'assurance, dans la confiance en Dieu, pour cette démarche d'avenir, pour ce regard qu'on a vers l'avenir. Et qui est un regard plein d'assurance et plein de force en Dieu. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que on est le 1er septembre, c'est le début c'est la fin de la période scolaire et c'est le début aussi, Seigneur, du travail pour certains, pour d'autres ça a été déjà le cas. Mais Seigneur, en tout cas, Seigneur, nous voulons te remercier pour les commencements. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les recommencements. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le travail, les œuvres que tu veux faire nouvelles, que tu veux faire nouvelles, Seigneur, pas seulement uniquement dans notre vie, mais dans la vie de ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à nous effacer, Seigneur, devant le message qui doit être donné. À savoir, Seigneur, être un messager de vie, un messager, Seigneur, qui porte l'espoir, un messager, Seigneur, qui, devant la détresse, ne reste pas impassible, Seigneur, mais qui se laisse conduire par l'amour. L'amour que tu as manifesté, Seigneur. Que tu as manifesté, Seigneur, par le fait que tu es venu. Tu as donné ta vie pour que quiconque croit soit sauvé. Puisse hériter de la vie éternelle. Puisse trouver le salut. Puisse trouver la paix. La paix et l'assurance en toi. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette œuvre, Seigneur, que tu as manifestée à la croix, pour ta mort et pour ta résurrection. La résurrection, Seigneur, cette victoire sur la mort, cette victoire que nous ne pouvons pas remporter, Seigneur, par nous-mêmes. Et Seigneur, nous sommes déjà morts, nous avons trouvé la vie en toi, Seigneur, déjà par le passé, parce que tu as accompli, Seigneur. Nous te remercions de cette œuvre que tu as accomplie et que tu continues à poursuivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser, Seigneur, tous les domaines dans lesquels tu veux encore agir. Travailler, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, nous accrocher, Seigneur, à nos lauriers, Seigneur, à nous contenter, Seigneur, de ce que aujourd'hui nous donne, Seigneur, de ce qu'hier nous avons reçu, mais à cette manne nouvelle, Seigneur, que nous voulons recevoir jour après jour. Cette manne nouvelle, Seigneur, qui par l'Évangile, par ta parole, Seigneur, nous donne d'être renouvelés, ressourcés, Seigneur, et de trouver la vie, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Dans l'attente, Seigneur, de ta présence, dans cette recherche de ta présence, dans cette recherche, Seigneur, de ce qui fait la force, Seigneur, de l'Évangile, ce qui fait la force de l'Évangile, c'est ta présence, Seigneur, c'est ta vie en nous, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen.